Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, entre les poteaux,
Pierre Amiche.
Bonjour à tous, c'est l'épisode bonus, celui que vous attendiez, parce que oui, on ne pouvait pas passer sous silence ce match de fou, celui que les femmes de l'équipe de France ont livré face aux Red Roses. Elles étaient menées 33-0 après 40 minutes, et après une remontée de dingue, elles sont venues échouer, malheureusement à quelques points, 38-33 score final. Côté négatif, les Françaises n'ont plus battu l'Angleterre depuis 5 ans, elles signent une 12e rencontre sans victoire face à l'Angleterre, et côté positif, elles n'ont jamais semblé aussi proches de renverser le monstre anglais. On prend les mêmes et on recommence. Léo Faure, Julien Landry, Nicolas Paolorsi. Bonjour messieurs.
Et bon.
Salut à
bonjour.
Tous.
Les potos, qu'est-ce que vous retenez de ce match? Cette nouvelle défaite ou ce combat énorme?
Malheureusement, la nouvelle défaite, parce qu'il y a une accumulation et qu'il y a cette idée qu'à chaque fois, c'est peut-être cette année la bonne et que c'est toujours pas la bonne. Donc, il y a un scénario qui est assez incroyable avec une énorme claque à la mi-temps et puis une deuxième mi-temps avec une presque remontada des Bleus où on vibre, on se dit et pourquoi pas et ça va peut-être tomber. Mais au final, il y a encore une défaite, quoi. Donc oui, une défaite encourageante avec plein de belles choses à retenir, mais une défaite.
Julien, c'est l'archétype de la défaite encourageante. On en a beaucoup rigolé pendant des années avec l'équipe de France masculine, mais ça ressemble vraiment à ça.
Ouais, mais comme dit Léo, encore une fois, elles rentrent fanny, quoi. Elles n'ont toujours pas de trophée. Alors oui, elles sont pas loin, mais le problème, c'est que c'est... elle est encourageante, mais c'est le dernier match du tournoi. Donc tu te retrouves à ne pas te revoir pendant des semaines. Donc elle est encourageante pour ce coup-là. Mais après, c'est comme la défaite contre la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. Elle est encourageante. Tu perds à la dernière minute avec cette pénalité de Pauline Drouin qui passe à côté. Elle est aussi encourageante. Tu finis par une troisième place. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, les matchs qui comptent, eh ben, cette équipe-là, elle n'arrive pas à s'imposer. Malgré le changement de staff.
Nicolas, sauve-moi de ces esprits chagrins.
Ouais, mais là, je les sens chafouin.
C'est pas vrai. Les rabat-joie de fou. Ils n'ont pas encaissé la défaite trois jours après.
Non, mais je suis quand même un peu d'accord avec eux.
C'est
mais
pas vrai.
Pour être un petit peu plus optimiste, alors par rapport à la défaite en Coupe du Monde, là, t'es sur un projet de reconstruction, on va dire. Même si t'as quand même gardé pas mal de joueuses. Et ce qui est important sur ce match-là, bah, c'est déjà la réaction des Françaises, le caractère de dingue. Parce que quand t'es mené avec un tel écart à la mi-temps, devant 50 000 personnes, tu peux en prendre 60. Hein, malgré ça, elle lâche pas. Elle marque 5 essais en deuxième mi-temps avec énormément de mouvements. Donc oui, ça laisse des regrets. Mais par contre, dans une optique de construction, tu peux te dire que tu montes un nouveau projet avec le duo de sélectionneurs Mignot-Ortiz. Tu peux te dire que tu peux tirer pas mal de positifs de ce match quand même.
Tu l'as dit, Nicolas, ce match, il est déjà dans l'histoire. Il y avait près de 60 000 personnes en tribune. C'est un record. C'est plus que la dernière finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'après une telle rencontre, Julien par exemple, est-ce que tu as l'impression que le rugby féminin progresse?
Non mais déjà il y avait elles marquent l'histoire à chaque fois parce qu'elles avaient déjà eu le match avec la plus grosse affluence lors de la demi-finale à l'Eden Park contre la Nouvelle-Zélande. Là elles font de nouveaux records à Twickenham, mais oui, bah déjà, moi je trouve que c'est déjà incroyable que et la fédération anglaise ait réussi à remplir Twickenham à 60 000, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas si la fédération française serait capable de faire pareil pour le rugby féminin au Stade de France. Donc déjà il faut saluer le travail de la fédération anglaise d'avoir réussi à les faire jouer à Twickenham, d'avoir rempli le stade. Après, ben, les audiences de la Coupe du Monde, elles ont été plutôt bonnes pour les filles. Là, elles sont encore diffusées sur France 2 samedi après-midi. Oui, tu sens qu'elles se développent. Je trouve en plus que moi, le championnat, alors il est encore un peu dans l'obscurité, mais par exemple à Montpellier, elles arrivent souvent à jouer en levée de rideau ou en clôture de match. Donc, ben, c'est-à-dire que les gens qui viennent au stade, ils arrivent à voir le rugby féminin avant ou après les matchs de Montpellier. Et je crois que ça se développe dans pas mal de clubs, le club des rugby féminin. Donc oui, tu sens qu'elles progressent. Mais on en revient, tu vas dire qu'on est chafouin, mais pour que ça marche, il faut des résultats. Alors oui, ce match, il est emballant parce que tu reviens, mais est-ce que tu reviens parce qu'aussi les Anglaises, elles se sont dit, bon, on a fait le plus dur à la mi-temps, c'est bon, elles ne reviendront pas. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour que cette équipe, elle marche et que le rugby féminin fonctionne, il va falloir des résultats et remporter finalement un trophée parce que
je comprends,
sans trophée, malheureusement,
bah, je comprends ce que tu dis, mais j'ai le sentiment qu'il y a une dynamique qui se crée.
Non, mais bien sûr.
On voit de plus en plus de contenu qui est proposé par la Fédé de rugby, avec notamment
oui,
des insides. On a l'impression que rugbystiquement, les filles
elles sont
plus
traitées.
Fortes.
Je trouve qu'elles ont été traitées, elles sont trois destinations, comme ils avaient presque traité les garçons, avec, tu l'as dit, ces insides, ces choses très intéressantes pour faire vivre l'intérieur. Mais au bout d'un moment, il faut des résultats. Et s'il n'y a pas des résultats, eh ben, elles resteront dans l'anonymat.
Question qui fâche, Léo. Où c'était dans le middle, les femmes, aujourd'hui? Enfin, on est lundi quand on enregistre le middle du jour. Est-ce que vous allez parler des femmes du 15 de France? Et si oui, où sera dans le journal?
C'est deux pages qui sont... Alors, quand je vais le dire, c'est dans le fond du journal parce qu'on a la Coupe d'Europe.
Parce qu'il y a la Coupe d'Europe.
Ouais, mais une fois qu'on laisse passer la Coupe d'Europe, pour nous, il vaut mieux que ça soit au fond qu'au milieu. Parce que c'est aussi un journal qui s'ouvre par la fin, le middle. Donc ça a plus de valeur, le fond du journal, que le milieu du journal pour nous. Donc c'est le deuxième...
Et puis vous avez fait un appel à la une.
Et bien sûr qu'il y a un appel à la une, ouais.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont quand même un peu vendeuses.
Ah oui, bien sûr, sur la partie web, on met des dispositifs. Moi, j'ai commencé à bosser ici il y a une dizaine d'années. On a dû multiplier par 3 ou 4 les volumes de contenu. On a un vrai intérêt. Il y a des filles aussi, des personnages qui se détachent dans ces équipes. Mais je rejoins un peu Julien, en fait. Il y a tout qui est en place pour que ça prenne vraiment. Et on voit que c'est en train de prendre. On parle de progression, là, on parle d'intérêt du public, de médiatisation, de choses comme ça. Mais en termes de qualité de jeu aussi, c'est...
Oui, bien sûr, sportivement, c'est bien meilleur.
Ah ouais, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans. En termes de vitesse collective, les nanas sont pros, elles s'entraînent vraiment quotidiennement. Enfin, il y a une vraie approche du haut niveau. Voilà, il faudrait effectivement qu'il y ait une épopée qui symbolise ça et qui finisse de lancer la locomotive, quoi.
Qu'est-ce qui manque pour vous à cette équipe de France? J'ai bien compris la victoire, le succès, mais ça n'arrive pas de manière spontanée. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'aujourd'hui l'équipe de France arrive à rivaliser avec l'équipe d'Angleterre?
Franchement, je sais pas. Franchement,
ça paraît difficile parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de solutions. Peut-être un peu plus d'argent, un diffuseur pour le championnat. Est-ce que ça n'est qu'une question économique?
C'est assez compliqué.
Les Anglais,
quand on en parle.
Le rugby anglais est plus professionnalisé que le rugby français. Elles sont, d'ailleurs, il y a une internationale française qui était partie en Angleterre et qui avait raconté justement la différence de traitement. Elles sont 100% pro en Angleterre, c'est-à-dire qu'elles ne font que ça, elles ont les soins et voilà, elles sont programmées pour être au plus haut niveau. Bah, d'ailleurs, elles sont la meilleure équipe depuis de nombreuses années. Donc il faut que ça se professionnalise un peu plus, comme tu dis, peut-être après un diffuseur, un peu plus d'argent, peut-être qu'elles soient rattachées un peu plus aussi au club masculin, parce que ça permet aussi de mutualiser parfois les coûts.
Vas-y, Julien.
Non, tu peux mettre à disposition les staffs médicaux des garçons pour les filles ou des centres de formation. Et c'est peut-être ça aussi la solution. C'est ce qui se passe au foot. C'est-à-dire que le foot veut que les clubs masculins aient des identités féminines. Et il faut peut-être qu'on fasse pareil au rugby pour professionnaliser aussi les filles et qu'elles soient rattachées au club masculin. Ce qui permettrait aussi un développement, une meilleure exposition et peut-être des droits télé qui changeraient évidemment la donne.
Tu voulais
en termes de formation. Ouais, non, je voulais dire qu'en termes de formation, en tout cas chez les jeunes, il y a de plus en plus de moyens qui sont alloués à la filière féminine. Et avec justement des clubs pro, les gros clubs pro de garçons qui vont intégrer des sections féminines. Il y a beaucoup de Pôle Espoir qui maintenant ont ouvert leur section féminine. Donc voilà, ça se structure. Après, par rapport aux Anglaises, on est peut-être encore un peu en dessous. Et puis c'est peut-être aussi nos joueuses qui sont un petit peu moins fortes pour l'instant que les Anglaises qui éclatent tout dans le tournoi Destination depuis maintenant 5-6 ans.
Justement,
Dans l'approche des matchs, juste l'exemple de Lénaïque Corson qui était au Wasps avant que le club fasse faillite.
Ouais, c'est ça.
Elle en parlait, mais ça fait pas mal d'années quand on en parlait avec le staff de l'équipe de France. Ils expliquaient que beaucoup l'écart entre les Françaises et les Anglaises, elle se situait notamment sur l'approche stratégique des matchs. Et là, Lénaïque Corson parlait de cette capacité qu'ont les Anglaises parce qu'elles s'entraînent beaucoup dessus à être très fortes sur sortie de camp, zone de marque. C'est des choses qu'on entend beaucoup chez les hommes. Et que les Anglaises travaillent énormément dans leur approche professionnelle de leur pratique du rugby. Et que les Françaises ont peut-être un peu moins aujourd'hui. On reste quand même plus dans un rugby d'enthousiasme et d'énergie. Et on a moins cette approche-là stratégique. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on progresse.
Dernier sujet, dernière question. On entend parfois que le Six Nations manque de densité, le Six Nations femmes, pour permettre à l'équipe de France de progresser. Pour rappel, la France a collé 53 points, l'Irlande 55 points à l'Écosse, 40 points au Pays de Galles, et l'Angleterre a collé entre 48 et 68 points à tout le monde. Est-ce que pour vous aussi, c'est ça la clé des années à venir pour le rugby femmes, c'est d'avoir plus de densité, une progression des petites nations, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la France et l'Angleterre en Europe?
Ah, ça va être compliqué. Déjà, à chaque fois, on fait le débat autour des destinations en disant « Ah, le Pays de Galles, ils ont peu de licenciés garçons. L'Irlande, c'est un miracle qu'ils soient à ce niveau-là avec le peu de licenciés. » Pour les garçons, alors t'imagines bien que pour les filles, c'est encore plus compliqué. Alors évidemment que c'est souhaitable que le rugby se développe dans ces pays-là.
C'est peut-être la mission de voir le rugby. Hein. World Rugby ouais, doit non, faire mais un effort. Il faut le développer. Chez les hommes, non, mais ils le font qu'il dans faut le
développer.
Pays.
Exactement. Non, mais il faut peut-être développer dans des pays plus structurés, comme ce qui peut être l'Australie ou aux États-Unis. Tu vois, des pays plus gros, où il y a peut-être un plus gros bassin de population. Mais c'est sûr que le tournoi destination, pour l'équipe de France, pour la densité, il faudrait la diversité un peu plus difficile. Mais c'est compliqué de forcer des pays à mettre de l'argent pour développer le rugby féminin. Après, tu as raison. World Rugby a peut-être.
Ouais, World Rugby, on sent qu'ils ont mis l'accent pour le 7, sur le 7 quand même, pour la pratique féminine aussi.
C'est ça.
Parce qu'il y a les JO derrière, parce que...
Ouais, c'est plus facile. C'est plus facile de trouver 10 joueuses facile, ouais. que d'en trouver 30.
Ouais, c'est d'aller dans des nouveaux territoires aussi, parce qu'il y a un peu moins de notions combat pur et dur, et on peut aller explorer plus facilement des nouveaux territoires, donc on sent qu'il y a quand même un accent mis là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la France, l'Angleterre en Europe, il y a la Nouvelle-Zélande, et puis on n'est pas très loin d'avoir fait le tour, après avoir trouvé un peu le Canada, l'Australie, mais qui sont... Ouais, il y a 3, 4, 5 nations maximum dans le monde, quoi. Qui sont vraiment compétitives. Il y a les Italiennes qui sont intéressantes dans le tournoi,
ouais,
qui sont chaque
beaucoup
année un peu meilleures.
Ouais, c'est ouais.
Bon, en d'ailleurs, tout cas, il y a quelques années, il y en avait pas mal qui jouaient à Clermont, puisque je connais bien le club, et qui avaient été championnes de France avec beaucoup d'Italiennes.
Bon, en tout cas, on
et puis il y a une
souhaite...
nouvelle compétition non, qui démarre en octobre.
Exactement, normalement, il y aura une compétition mondiale. C'est l'objectif de World Rugby, si je ne dis pas de bêtises, Nicolas.
Ouais, c'est ça. Mais je crois que l'équipe de France y participe. Donc ça aussi, ça va permettre de vraiment se jauger face aux meilleurs et puis d'augmenter le niveau des Bleus.
C'est ça, rencontrer plus régulièrement les grandes nations. C'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe de France, en tout cas, pouvoir rivaliser de nouveau avec le 15 d'Angleterre. Ça n'a plus été fait depuis 2018. Et forcément, on sera de tout cœur derrière les Bleus au féminin parce que c'est aussi l'équipe de France et que le rugby progresse chez les femmes. Merci les potos pour cet épisode bonus. Je remercie évidemment Kevin Pogam à la réalisation, Arthur Robert à la production. Et la semaine prochaine, retour à l'ordinaire, l'équipe Premium, le top 14. Et en attendant, on vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine sur RMC.